autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, autour d'une question vitale, celle de l'accès universel à l'eau potable en Afrique subsaharienne. C'est l'un des objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour 2030. Un objectif qui semble d'ores et déjà hors d'atteinte dans ces régions de socle, où l'eau coule pourtant en quantité mais souterrainement, dans des lacs aquifères. Alors comment rendre visible l'invisible, ces eaux souterraines si précieuses, si indispensables aux habitants du Sahel? Et pourquoi faudra-t-il revisiter entièrement les méthodes de forage pour y parvenir? C'est un cri d'alerte et un défi majeur auquel ont décidé de s'atteler les hydrogéologues de toute l'Afrique de l'Ouest. De Niamey à Abidjan, en passant par Ouagadougou, Bamako et Abomey-Calavi, rassemblés en collectif, ils se sont fait entendre cette année des eaux souterraines décrétées par l'UNESCO, lors d'un congrès au printemps dernier où notre reporter Clémentine Métainier les a rencontrés et interrogés sur leurs recherches, leurs pistes et leur engagement, qui implique un changement total de perspective sur les méthodes de forage et les manières de les faire passer, comme nous l'expliquera notre invité, l'hydrogéologue Jean-Michel Vouyamo de l'IRD, autour de la question des eaux souterraines en Afrique de l'Ouest pour assurer l'accès universel à l'eau potable. Bienvenue d'abord au nord du Niger, dans le petit village de Tatiste, où chaque jour les femmes parcourent des kilomètres pour trouver de l'eau. Dans cette zone devenue totalement aride et desséchée, elles sont parfois même forcées de partir très loin, d'abandonner leur famille et leurs enfants pour leur rapporter cette si précieuse ressource, l'eau, qui s'écoule pourtant souterrainement sous leurs pieds, dans des lacs aquifères qu'il suffirait peut-être de forer pour faire jaillir. Encore faut-il comprendre comment. Extrait du poignant documentaire d'Aïssa Maïga, Marcher sur l'eau.
On est au-dessus de l'eau, mais c'est tellement profond ces poussiers-là, là il faut un forage. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle les changements climatiques.
Le changement climatique, une réalité quotidienne pour les enfants et les villageois au Sahel, comme l'illustre ce film documentaire à la fois terrible et magnifique, Marcher sur l'eau, qui illustre aussi notre question du jour, comment assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable en Afrique de l'Ouest, grâce notamment à ces eaux souterraines dans ces régions de socle. C'est votre spécialité, votre engagement en tant qu'hydrogéologue. Bonjour Jean-Michel Vouyamo.
Oui, bonjour Caroline.
Merci d'être venu de Grenoble pour être en direct avec nous sur RFI et nous faire passer alors à la fois vos recherches inspirantes en réseau, en collaboration avec vos collègues d'Afrique de l'Ouest, nous faire passer aussi votre cri d'alerte ou d'alarme. Au fond, cet objectif des ODD d'accès à l'eau potable universelle ne sera pas atteint en 2030 en Afrique de l'Ouest, au Sahel. Il y va de la survie de toute une population. C'est votre constat d'hydrogéologue, Jean-Michel Vouyamo?
Oui, absolument. Ce qu'on constate, c'est que d'abord aujourd'hui, l'accès à l'eau est seulement réservé à une partie des Africains. À l'échelle du continent, mais c'est aussi vrai à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, c'est grosso modo 60% des gens seulement qui ont accès à l'eau potable. Ça pose un vrai problème parce que 40% des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est 40% des gens qui sont dans des situations qui peuvent les mettre en difficulté, notamment d'un point de vue sanitaire. Vous savez que boire de l'eau non potable, c'est prendre le risque d'attraper des maladies. Et c'est un vrai fléau aujourd'hui. Pourquoi c'est un vrai fléau? Parce que si on écoute nos collègues de l'UNICEF, ils nous disent que les maladies qui sont dues à l'ingestion de l'eau insalubre tuent environ 1500 enfants ce n'est pas par an, ce n'est pas par mois, c'est par jour.
Par jour, 1500 enfants meurent par jour en Afrique à cause de l'eau insalubre, parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable.
Absolument. Donc il y a un défi majeur. Et au-delà de ce risque sanitaire, évidemment, il y a tout un tas de risques induits, parce que quand on a un enfant malade, on va mobiliser des ressources pour le soigner, on va passer du temps, on va utiliser de l'argent, et tout ça, évidemment, ça va impacter sur la dynamique que la famille aurait pu mettre en route pour finalement mieux vivre et aller sur la voie du mieux
double
développement.
Double peine, triple peine,
absolument,
fait.
Absolument.
Et puis, cette question de l'eau, donc l'accès à l'eau est indispensable, mais votre constat, c'est aussi que ce sont des zones, on va y venir, parce que vous êtes hydrogéologue, donc dans cette partie d'Afrique de l'Ouest, il y a toute une zone de socle, qu'on appelle de socle, dans laquelle il y a de l'eau, non pas de l'eau fossile, mais de l'eau qui arrive souterrainement et qu'on pourrait capter par des forages, et qu'on peut capter par des forages.
Oui, alors, capter l'eau par les forages, ça, on peut le faire dans toutes les provinces géologiques. Hein. Mais il se trouve que l'Afrique de l'Ouest est couverte pour un peu plus de la moitié de sa superficie par ce qu'on appelle ces roches de socle. Alors, qu'est-ce que c'est que les roches de socle ? Qu'est-ce que sont que ces roches de socle ? Ce sont des roches très anciennes qui sont, en fait, les fondations du continent. Sur ces fondations, évidemment, par endroits, se sont déposées d'autres roches qu'on qualifie généralement de roches sédimentaires. Et quelle est la différence schématiquement entre les deux ? C'est que les roches de socle sont très difficiles, l'eau qui est contenue dans ces roches-là est très difficile à exploiter pour différentes raisons. La première, c'est que si, par exemple, on trouve de l'eau à tel endroit, sous nos pieds, il n'est pas du tout garanti que 10 mètres ou 20 mètres plus loin, on trouve aussi de l'eau. Il y a une très, très grande hétérogénéité spatiale des propriétés de ces roches, qui fait que l'eau n'est pas répartie de façon égale. Donc la première difficulté, c'est ça.
C'est déjà comment... de comprendre où il y a cette eau dans ces roches de socle, donc très profondément et très difficilement atteignable.
Alors non, elles ne sont pas très difficiles à atteindre. Mm-hmm. L'ordre de grandeur, c'est que les eaux souterraines vont se trouver entre 10 et 100 mètres de profondeur. Quand on parle de forage, on parle de quoi en fait, on parle d'un trou qui va faire 10 ou 20 cm de diamètre, qui est réalisé mécaniquement par une machine, ça prend un ou deux jours. C'est un travail qui coûte un peu cher, mais ce n'est pas un travail très, très difficile à mettre en œuvre. La vraie difficulté, c'est que si on regarde tous les forages qui ont été réalisés depuis le milieu des années 80 ou début des années 90 dans ce type de roche en Afrique de l'Ouest, je parle là de dizaines de milliers de forages. Donc un grand nombre, eh bien on s'aperçoit que 40% d'entre eux, donc à peine moins que la moitié, sont des forages qui sont abandonnés, soit parce qu'ils sont complètement secs, soit parce qu'ils délivrent tellement peu d'eau qu'on ne peut pas les exploiter. Donc ça montre bien l'ampleur de la difficulté, c'est que même quand on fait des efforts pour finalement construire des infrastructures pour alimenter en eau les gens, bah finalement dans, non pas un cas sur deux, mais 40% des cas, bah finalement on n'y arrive pas. Et ça, c'est un vrai défi.
C'est ça. Et ça, c'est le défi des hydrogéologues aujourd'hui et de ce collectif, en fait, que vous avez fabriqué, fondé ensemble, en réseau avec des hydrogéologues d'Afrique de l'Ouest, de cette région de socle. Alors, c'est une région de socle qui couvre quoi ? Géographiquement, ça représente quoi sur le continent et dans cette zone sahélienne ?
Oui, alors, il y a différentes régions, mais schématiquement, si on considère l'Afrique de l'Ouest, on va partir du Nigeria et puis après embrasser l'essentiel du Bénin, du Togo, du Ghana, et on va remonter comme ça jusqu'à la Sierra Leone et la Guinée. Et puis plus au nord, on va voir tout le Burkina, quelques parties mais plus marginales au Niger, un petit peu dans le sud du Mali. Donc c'est vraiment des zones qui sont très très répandues, encore une fois parce que c'est le soubassement du continent qui affleure.
Et dans toutes ces zones, il y a de l'eau. Reste à comprendre comment, où et comment. C'est ça le grand défi aujourd'hui, c'est de comprendre où forer comment pour que ce soit pérenne et pour qu'on puisse utiliser cette
alors,
eau.
Pas seulement.
Il n'y a que des défis partout.
le premier défi, c'est celui-là, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que exploiter les eaux souterraines, si on ne le fait pas en connaissant la façon dont ces eaux souterraines se renouvellent, c'est finalement comme puiser dans un réservoir qui va se vider au fur et à mesure qu'on puise dedans. Donc, le second enjeu, au-delà de savoir localiser où se trouve l'eau souterraine, c'est de savoir comment cette eau se renouvelle. Et ça, évidemment, on pense tout de suite au lien qui peut exister entre le renouvellement des souterraines et le climat, et notamment les variations du climat auxquelles on est confronté aujourd'hui.
Donc c'est une eau qui se renouvelle, ces eaux souterraines dans des zones de socle, c'est une eau donc qui se renouvelle comment ? Par la pluie ? Par l'eau de pluie ?
Absolument, c'est une fraction, une partie de l'eau de pluie qui va s'infiltrer. et qui va rejoindre ce qu'on appelle la nappe, hein, et donc qui est l'eau qui est stockée dans les roches. Voilà. Et pour donner peut-être des ordres de grandeur à l'auditoire, bon, si on regarde en moyenne les roches de socle à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, on a fait des études avec nos collègues africains, et on voit que les stocks actuels sont de l'ordre de 500 litres d'eau par mètre carré de surface au sol. Donc si vous dessinez un carré de 1 mètre par 1 mètre, sous vos pieds, vous avez en moyenne 500 litres d'eau qui sont stockés. Évidemment, il y a une certaine variabilité, hein, ça dépend, mais globalement, c'est ça. Et si on regarde la part de cette eau qui se renouvelle, c'est évidemment beaucoup moins que ça. C'est quelques pourcents de la pluie. Alors évidemment, il ne pleut pas de la même façon au Sahel ou dans la zone côtière. Mais le renouvellement, c'est quelques dizaines à 2 mm, à au maximum 100 ou 150, quelques dizaines de litres par mètre carré, au maximum 100 ou 150 litres par mètre carré.
Donc c'est important de comprendre comment elle se renouvelle, jusqu'où. Donc il faut vraiment arriver à comprendre, arriver à changer, on va le voir, nos méthodes et nos approches de forage et faire le lien. Voilà pourquoi je l'ai dit, vous avez, Jean-Michel Vouillamoz, ensemble créé un collectif de chercheurs hydrogéologues engagés, c'est le collectif ASAO, Aquifères de Socle en Afrique de l'Ouest. Et vous vous êtes même réunis en congrès au printemps dernier, un congrès auquel a assisté notre reporter Clémentine Métainier, qui nous a d'ailleurs alerté sur l'importance de vos travaux à ce sujet. Clémentine a notamment recueilli l'éclairage de l'hydrogéophysicien Dimitri Soro. Il est originaire du Burkina. Il poursuit actuellement sa thèse à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire, autour de questions de géophysique appliquées aux eaux souterraines. Écoutons Dimitri Soro, car il a une question pour vous, Jean-Michel Vouillamoz.
C'est un sujet d'étude pour moi parce que c'est un lien direct avec le quotidien des populations. Nous avons des grandes populations qui vivent dans ces milieux ruraux, même des milieux semi-urbains, et ces populations n'ont pas d'autre choix que de boire, comme nous d'ailleurs. Quel que soit l'endroit où nous nous situons, nous avons besoin de nous alimenter en eau. Et donc, vivant sur ce socle, en gros, donc il est important que nous cherchions au mieux à sortir les trésors que ce socle offre, afin que ces personnes aient de moins en moins à souffrir, d'autant plus que dans le contexte dans lequel nous sommes, pour alléger aussi la tâche de nos mères, parce que ce sont ces femmes-là qui ont la corvée de l'eau. Donc, leur fournir de l'eau plus près de leur concession, ce serait vraiment d'un gain bénéfique, du temps gagné pour pouvoir en fait l'utiliser à d'autres activités.
Si vous aviez une question à poser à vos collègues, amis de l'IRD entre Grenoble et Montpellier, qu'est-ce que ce serait ?
Bon, je pense que la question que je vais peut-être poser, c'est de savoir, en fait, est-ce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, les personnes donc, qui sont à l'exécution, donc qui offrent les marchés et ceux qui les réalisent, sont prêts à remettre en cause les concepts qui sont les leurs actuellement afin de pouvoir effectivement marcher vers cet objectif des ODD?
Votre réponse, Jean-Michel Vouillamoz, puisque vous êtes le collègue de l'IRD de Grenoble qui est avec nous en direct en studio.
Oui. Peut-être juste une petite précision avant de répondre à Dimitri. Dimitri n'est plus étudiant, en fait, il a soutenu sa thèse il y a déjà quelques années. C'est un détail. Hein.
Mais aujourd'hui, il est en poste. Donc il est en poste à l'Université Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Absolument. Et il fait effectivement partie de ce collectif qu'on a appelé ASAO, et qui est un collectif finalement de jeunes chercheurs africains qui partagent ensemble deux intérêts. Le premier, c'est celui de l'accès à l'eau et d'essayer de travailler à cet objectif d'un accès à l'eau universel. Et puis le second, c'est cette attention particulière qui est posée aux roches de socle pour les difficultés qu'elles posent et qu'on a évoquées tout à l'heure.
Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à sa question ? Est-ce que justement les personnes qui sont à l'exécution, c'est-à-dire les opérateurs, peut-être aussi les décideurs, sont prêts à remettre en cause les concept, leur manière de travailler, de forer, de concevoir l'accès à l'eau et l'usage de ces eaux souterraines dans les régions de socle.
Oui, alors je vais répondre à Dimitri, mais peut-être je vais aussi préciser pourquoi est-ce qu'il nous paraît nécessaire de changer les comportements actuels. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit, c'est ce que je vous disais, quand on regarde statistiquement à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, que 40% des forages qui sont réalisés sont abandonnés parce qu'ils ne délivrent pas assez d'eau. C'est le premier point. Le second point, c'est que quand on regarde les politiques nationales, globalement sur l'Afrique de l'Ouest, qui vont toutes dans le bon sens, qui essayent toutes d'améliorer l'accès à l'eau des populations, elles se sont basées sur une nouvelle stratégie. Jusqu'au début des années 2000, la stratégie pour alimenter en eau les gens, c'était essentiellement la réalisation de ces fameux forages qu'on équipait d'une pompe à motricité humaine, une pompe manuelle, et qui alimente une communauté de 200 ou 300 personnes. Aujourd'hui, les stratégies ont complètement évolué, et aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, ce n'est plus d'installer des pompes manuelles, mais c'est d'installer, si vous voulez, des pompes motorisées qui vont alimenter des réseaux de distribution pour alimenter, évidemment, des communautés beaucoup plus importantes.
À cause de la démographie, parce qu'il y a de plus en plus de monde, parce que les gens sont aussi dans des régions un peu urbanisées où ils sont nombreux et ils n'ont pas accès à l'eau. C'est pour toutes ces raisons-là, Jean-Michel ?
Exactement. C'est à la fois parce qu'on se rend compte qu'il faut réaliser de plus en plus d'ouvrages dans un laps de temps finalement assez court, et en même temps parce que la population est de plus en plus urbanisée et que la stratégie pompe à main, elle ne tient vraiment plus quand on s'adresse à des quartiers, quoi.
Donc il faut tout changer.
Mais là, il y a une difficulté majeure qui est rencontrée par les opérateurs. Aujourd'hui, tous les appels d'offres, et c'est à ça que fait référence Dimitri, et donc je vais lui répondre, tous les appels d'offres aujourd'hui, aussi bien des bailleurs de fonds que des décideurs, donc les décideurs, c'est essentiellement les services techniques des ministères en charge des questions de l'eau en Afrique de l'Ouest, demandent aux opérateurs de terrain de réaliser des forages qui sont capables de délivrer assez d'eau pour alimenter ces fameux réseaux de distribution avec leur bonne fontaine ou leur robinet dans la concession. Or ça, encore une fois, quand on regarde Mère Nature, quand on regarde ce que peut produire ces roches de socle, on s'aperçoit que c'est très très rare. On a moins de 20% des forages qui sont réalisés dans le socle, qui sont capables de produire assez d'eau pour alimenter ces réseaux. Et donc évidemment, on se dit, mais les stratégies nationales sont d'une certaine façon basées sur la recherche de l'exceptionnel statistique. On recherche des forages qui donnent beaucoup d'eau, mais finalement la nature ne nous donne pas ça dans ces roches de socle.
Ah oui, donc on se bat sur quelque chose de faux.
Absolument. Absolument.
Et ça, c'est une découverte assez récente des hydrogéologues, ou vous le saviez depuis longtemps? Enfin, comment vous expliquez cette inadéquation, en fait, entre ce qu'on essaye de faire et la réalité, enfin, Mère Nature, comme vous le dites, ou ces eaux souterraines?
On le savait, mais ce qui a beaucoup changé, finalement, c'est le contexte. Si on regarde les décennies précédentes, les deux ou trois dernières décennies, on voit que tous les efforts qui ont été consentis par les acteurs opérationnels sur le terrain ont porté leurs fruits. C'est-à-dire que le taux d'accès à l'eau, il a vraiment augmenté de façon très forte. Hein. On est parti, en gros, sur les 20 dernières années, le nombre de gens en Afrique de l'Ouest qui ont accès à l'eau potable a été multiplié par 3. On est passé d'un peu plus de 100 millions à quasiment 300 millions de personnes. Donc les efforts ont porté. Mais si on regarde attentivement ce qui se passe aujourd'hui, on s'aperçoit que cette amélioration, elle est de moins en moins rapide, voire la tendance commence à s'inverser dans certains pays.
D'accord, donc ça a marché, enfin ça a fonctionné, mais là maintenant il y a un vrai danger, un vrai souci.
Et pourquoi? Simplement parce que la population augmentant, la demande augmente en conséquence. Et on est dans un contexte où les populations doublent tous les 20 ou 30 ans. Et donc ça veut dire
ça
que
va continuer.
Tous les 20 ou 30 ans, ne serait-ce que pour maintenir le taux d'accès actuel qui est insuffisant, tous les 20 ou 30 ans, il faudrait doubler le nombre d'infrastructures qui existent. C'est un travail colossal qui est impossible à réaliser, en fait. Donc les États, très logiquement, se sont dit, on va changer de stratégie, on va faire moins de forage, mais on va pomper des débits supérieurs pour faire des réseaux et alimenter plus de gens. Donc,
sauf que ça marche
pas. Il y a une
pas.
Logique de planificateur, logique. Mais cette logique, elle n'est pas en phase avec les limites du milieu.
C'est ça. Et donc, voilà pourquoi il faut s'intéresser à ce que vous recherchez, vous. Parce que vous vous dites, ce sera possible quand même. Mais donc, comment faire? Qu'est-ce que vous proposez comme piste, vous et tout le collectif Assaou, oui. Jean-Michel?
Alors, on pense déjà que, plusieurs choses, trois choses rapidement. La première chose, c'est qu'on pense que la stratégie pompe à main, qui continue à être maintenue dans des endroits très ruraux, elle doit être effectivement maintenue. Mais la façon dont on choisit l'endroit où on va implanter le forage, doit être revu profondément. Parce que la façon dont les opérateurs choisissent l'endroit pour faire un forage est basée sur un modèle conceptuel qui est un peu dépassé.
Oui, planificateur, mais qui ne correspond pas à la réalité.
Et puis qui considérait que ces fameuses roches de socle étaient des roches qui étaient stériles, qui ne pouvaient pas contenir d'eau, sauf au droit de grandes fractures qui auraient été créées par des accidents tectoniques. Et donc toute la recherche des meilleurs sites pour implanter les forages est basée sur ce modèle-là. Or, on voit que ce modèle, il est probablement obsolète. obsolète et qu'en vérité, l'eau souterraine dans le socle, elle n'est pas de façon prioritaire dans les grandes fractures tectoniques, mais elle est plutôt dans les zones d'altération du socle, parce que c'est des roches qui sont très anciennes et qui ont été altérées sur plusieurs dizaines de mètres.
Et qui conservent et qui gardent l'eau.
Absolument. Donc ça change la façon dont il faut s'y prendre pour choisir le meilleur endroit pour faire un forage. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est qu'il faut, je pense, abandonner le rêve de faire des forages à très gros débit pour alimenter des réseaux, parce qu'on on va vraiment dans le mur.
Il n'y en a pas, il y en a exceptionnellement,
voilà,
c'est ça.
Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce que sinon le téléphone va sonner. Il y en a, mais de façon statistiquement exceptionnelle, 15% des cas. Quoi. Mais on ne peut pas baser des stratégies nationales sur 15% de ce qu'on est capable de trouver. Il faut plutôt se dire, les débits moyens qu'on peut tirer de ces roches s'étendent, et donc plutôt que de faire un forage qui donne X, on va faire 5 forages qui donnent X sur 5. Quoi. Donc, plutôt que de vouloir faire un forage exceptionnel, on va multiplier les forages qui vont donner des débits qui sont moindres, mais qui sont plus en accord avec les potentialités du milieu. Et la production de ces forages, on va les regrouper pour alimenter un réseau derrière.
Il n'y a aucun danger dans ces forages. Un de nos auditeurs à Madagascar nous pose la question en disant aussi, est-ce que finalement ces eaux fossiles, mais je ne sais pas si ce sont des eaux fossiles d'ailleurs, en nous disant finalement ces eaux fossiles, est-ce qu'il n'y a pas un danger d'aller forer, d'aller les chercher? Et aussi, est-ce qu'il n'y a pas dans ces eaux fossiles des traces de climat, de vie passée, un peu comme les carottes de glace? Tout le monde, cet auditeur à Madagascar. Oui.
Alors, je le rassure, ce ne sont pas du tout des eaux fossiles. Ce qu'on appelle
pas des eaux fossiles.
Non, absolument pas. Ce sont des eaux qui se renouvellent à l'échelle humaine, à l'échelle temporelle de l'humain. Alors, il y a un gradient, mais si on prend la zone côtière de l'Afrique de l'Ouest, le renouvellement, il se fait toutes les années au gré de la saison des pluies. C'est quelques pourcents de la pluie qui s'infiltre et qui renouvelle ces eaux-là. Et si on remonte dans la zone sahélienne, le renouvellement peut se faire annuellement ou tous les 2 ou 3 ou 4 ans en fonction d'événements de pluie un peu extraordinaires. Mais c'est des eaux qui sont tout le temps renouvelées.
Donc c'est vraiment de l'eau renouvelable, c'est pas de l'eau fossile. Et le fait de forer dans ces roches, est-ce qu'il y a aussi, on va y venir, j'imagine, en deuxième partie, mais il y a des manières aussi, j'imagine, de forer qui sont peut-être meilleures que d'autres ou c'est pas le propos, enfin,
non,
c'est pas ça le problème, Jean-Michel.
Non, c'est pas trop le problème. En fait, c'est des techniques qui sont assez éprouvées et sur lesquelles, il n'y a pas de limitation particulière en termes techniques pour forer, quoi. Donc il n'y a pas de problème là. Je voulais juste peut-être dire une chose quand même. Ce renouvellement, c'est une question fondamentale et c'est une question qui n'est absolument pas considéré aujourd'hui par les décideurs, malheureusement, ou très très peu. Ça l'est sur le papier, mais pas dans les faits. Et je pense que c'est pour ça aussi que Dimitri m'interpellait sur cette question-là. C'est qu'aujourd'hui, l'urgence est telle que les planificateurs veulent réaliser des infrastructures pour alimenter en eau les gens, sans se poser la question de la durabilité de la ressource qu'ils utilisent. Et qu'est-ce qu'on observe? Tous les services techniques des ministères vous le disent, c'est qu'au bout de quelques mois, quelques années, les gros débits fantastiques qui ont été trouvés pour alimenter les réseaux s'effondrent.
S'épuisent et ne se renouvellent pas. Ou en tout cas pas à l'allure à laquelle
Ne se renouvellent pas suffisamment pour soutenir ces débits-là. Et donc ça veut dire que la recommandation qu'on peut faire aussi aujourd'hui, c'est celle-là, c'est de dire, avant de mettre ces forages en exploitation, il faut absolument avoir une estimation assez rigoureuse de la façon dont l'eau souterraine se renouvelle pour évidemment ne pas exploiter plus que la capacité de renouvellement du milieu.
Autour de la question du renouvellement des eaux souterraines au Sahel, en Afrique de l'Ouest, dans ces zones de socle, on vous propose un petit forage musical. Je vous sais, Jean-Michel Vouillameau, inspiré par le célèbre Watergate No Enemy de Fela. Du coup, je propose une petite version revisitée, créolisée même par son fils, Sean Couty, et remixée électro par le DJ David Walters. Bouée de l'eau. Oui, bouée de l'eau sur RFI. Bouée de l'eau. Je n'en mêle pas. Bois de l'eau, David Walters et Sean Couty sur RFI. Bois de l'eau, encore faut-il en avoir de l'eau autour de la question de l'accès universel à l'eau potable au Sahel et en Afrique de l'Ouest, dans ces régions de socle qui abritent des réserves d'eau souterraines. Encore faut-il aussi savoir comment les capter, comment elles se renouvellent, où les capter. C'est le défi des hydrogéologues comme vous, Jean-Michel Vouillamo, rassemblés dans ce collectif ASAO, Aquifère de Socle en Afrique de l'Ouest, un collectif de jeunes chercheurs engagés pour faire avancer justement à la fois les connaissances, les méthodes de forage, la compréhension de ces eaux souterraines. Alors vous m'avez dit que j'avais pas employé le bon terme, alors que c'est l'image qu'on peut se représenter. On parle parfois de lac aquifère. Or c'est pas ça du tout, ces eaux souterraines, Jean-Michel Vouillamo.
Non, pas du tout. Il faut pas imaginer les eaux souterraines comme des lacs ou des poches de vide qui seraient remplies avec des quantités astronomiques d'eau. Il faut imaginer une roche dans laquelle il y a un centre de vide, hein, imaginez un sable de plage, et ces vides vont être remplis par de l'eau.
D'accord.
Et c'est ça qui va former un aquifère. Ce qu'on appelle aquifère, c'est la roche et l'eau qui est contenue à l'intérieur.
Et qui se révèle être une source extrêmement importante. Dans le colloque sur les eaux souterraines qui vous a rassemblé en mai dernier, c'est d'ailleurs l'année des eaux souterraines décrétées par l'UNESCO, l'année de comment faire rendre visible l'invisible, ces eaux cachées. Vous aviez invité tous les chercheurs, jeunes chercheurs de votre collectif, mais aussi des chercheurs seniors, pour les embarquer justement dans votre nouvelle approche des eaux souterraines. Notre reporter Clémentine Métainier y a notamment rencontré le professeur Samuel Nakolen-Doucet de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Ce géophysicien se consacre depuis plus de 30 ans à la recherche sur les eaux souterraines. On l'écoute.
Depuis plus de 30 ans, je ne fais que la recherche au niveau des eaux souterraines. C'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui apparaissent. Mais on veut attirer l'attention des jeunes que l'hydrogéologie, c'est d'abord l'observation. Parce que les gens vont rapidement aux appareillages sans penser à observer. Parce que pour trouver de l'eau, il faut observer. Vous voyez, j'aime dire à mes étudiants, vous voyez, nous sommes dans une zone sahélienne. Il ne pleut que du mois de mai à octobre. Mais au mois d'avril, en pleine saison sèche, vous allez vous balader, vous allez trouver une termitière qui est en train de construire. Ça veut dire qu'il a trouvé de l'eau quelque part. Donc, ce sont des indicateurs. Donc, lorsque vous observez tout ça, ça permet quand même de trouver les endroits idéaux. Il faut se poser une question. Est-ce que ce que je vois est que c'est une faille? Est-ce que la faille pourrait contenir de l'eau? Moi, mon objectif, c'est de trouver de l'eau et de l'eau en quantité pour les gens. Et c'est ça que ma carrière, je passe tout le temps pour cela. On fait de la recherche application. Donc, au niveau du Burkina, je me souviens une fois, on est parti faire des implantations pour des prêtres qui cherchaient de l'eau en vain. Et que lorsqu'on a fait, on a eu un forage exceptionnel de 36 mètres cubes heure, mais les gens ne s'en revenaient pas. Et là, bon, on a dit qu'on a, les gens ont dit qu'on n'a pas touché la mer. J'ai dit non, on est loin de la mer. Mais c'était exceptionnel. Donc, on vit des expériences comme cela. Donc, il faut, la recherche est d'être appliquée.
Vous voulez réagir, j'imagine, Jean-Michel Vouillamot, à cet éclairage du professeur Samuel Nacolène-Doucet. Alors, on ne touche pas la mer, mais vous le disiez, c'est quand même rare de tomber sur, de faire un forage qui fasse jaillir énormément d'eau et que cette eau soit pérenne.
Oui, peut-être ma réaction, je vais la faire en deux temps. D'abord, je salue le prof et je veux dire, j'adhère tout à fait à son propos qui considère que quand on veut implanter un forage, quand on veut choisir le meilleur endroit pour réaliser un forage, il faut, alors lui dit observer le milieu, donc il faut prendre son temps. Mm-hmm. Quand je dis prendre son temps, c'est il y a un ensemble de travaux, de tâches à effectuer qui nécessitent plusieurs jours de travail. Or, aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire ça. Aujourd'hui, les bureaux d'études qui font ce travail-là sont tous concurrentiels. Tous les arbitrages pour les appels à projets sont faits sur le moins offrant. Et donc, finalement, qu'est-ce que font les bureaux d'études? Ils ont une demi-journée, en gros, hein, pour faire l'implantation dans un village. Donc, ils font des mesures vite fait, bien fait, qui, généralement, ne servent pas à grand-chose. Et voilà. Donc, moi, j'adhère tout à fait au propos du prof, qui est de dire, si on veut faire un bon travail, il faut observer le milieu. Et ça, ça nécessite d'y passer quelques jours. Donc, ça, vraiment, on est tout à fait d'accord avec.
Sauf que vous le dites, aujourd'hui, on n'a plus le temps et on se retrouve à forer au fond d'un... comment, c'est un peu ça. Et il faudrait, et voilà pourquoi les hydrogéologues que vous êtes et tous ceux réunis au sein de votre collectif disent attention, il faut quoi? Plus de connaissances, plus de temps, il faut surtout pas forer n'importe comment et n'importe où, justement parce que c'est urgent et essentiel.
Oui, voilà. Aujourd'hui, alors il y a encore des champs de connaissances à explorer, et notamment sur les relations entre le renouvellement de ces eaux souterraines et l'évolution du climat. Donc là, il y a encore des champs de recherche à explorer. Mais on sait déjà quand même pas mal de choses qui permettraient de revisiter les pratiques actuelles.
Qu'est-ce qu'on sait, par exemple,
ben, on sait, par exemple, que globalement, les stocks d'eau à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest dans le socle sont largement suffisantes pour alimenter la totalité de la population,
c'est une excellente nouvelle,
en tenant compte d'un accroissement constant sur les prochaines décennies.
Donc il y a assez d'eau souterraine.
Absolument. Et le renouvellement actuel permettrait aussi de maintenir, enfin d'accéder à cette alimentation universelle. Mais on sait aussi que pour arriver à cet objectif-là, il faut revoir complètement la façon dont on procède. Et notamment, il faut arrêter de courir après le Graal du forage exceptionnel, comme en a parlé le prof, dont je ne nie absolument pas l'existence. On en a tous fait, et donc il a tout à fait raison. Ça existe, mais ça reste exceptionnel. Et on ne peut pas alimenter la totalité de la population sur quelques ouvrages exceptionnels. Et j'ajoute une troisième chose, c'est que le gros débit dont parle le prof, c'est un gros débit qu'il a trouvé à un moment donné. J'aimerais savoir... comment évoluer ce débit 5, 6, 10 ou 24
mois plus tard. C'est pas parce que c'est un gros débit que ça va durer.
Absolument pas. Au contraire. Toutes les observations qu'on a des gens qui gèrent les réseaux, hein, donc les gestionnaires de réseaux, hein, ceux qui mettent l'eau dans les tuyaux pour alimenter les robinets dans les concessions ou au niveau des bornes fontaines, nous disent qu'ils sont confrontés à des problèmes vraiment insurmontables parce que ces gros débits ne durent pas dans le temps. Et quand on dit ne durent pas, c'est au-delà de quelques mois à quelques années.
Donc
on ne parle pas de décennies. Ouais. Quoi.
Est-ce que vous êtes un peu entendu, un peu écouté, Jean-Michel? Parce qu'on se dit que c'est extraordinairement important de vous écouter et de vous suivre. Et puis en plus, on n'a pas le choix et qu'il faut le faire vite. Donc est-ce que vous êtes entendu ou écouté sur ce changement total d'approche, finalement, par rapport à ces eaux souterraines?
Alors oui et non, on l'est parce que je pense que la communauté de l'ensemble des acteurs a vraiment envie d'améliorer l'accès à l'eau dans le monde et finalement travaille avec un objectif commun. Donc je pense que globalement les gens ont envie de faire bien. Donc y compris les bailleurs de fonds. Hein. Quand on va voir un bailleur de fonds et qu'on lui explique un peu les choses, les gens ont envie que leur argent soit bien utilisé, donc ils peuvent vous suivre. Mais non, pourquoi? Parce que la façon, le changement de pratique qu'on propose vient remettre en cause des décennies de pratiques.
Bien sûr.
Moi-même, qui suis un hydrogéologue qui a quelques années d'expérience, j'ai appris et enseigné ce dont parlait le professeur tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Il faut accepter de faire complètement autrement.
Voilà, quoi. Et de se dire, bah, finalement, si on regarde les données depuis 3 décennies, il faut accepter que probablement on s'est un peu trompé, ou en tout cas qu'il faut revisiter la façon dont on évolue. Et ça, évidemment, c'est un frein qui est important. Et c'est vraiment un des enjeux du travail qu'on met en œuvre avec ce collectif, c'est de dire, générer de la connaissance sur le milieu, ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite, et c'est vraiment le second aspect de notre travail, essayer de faire en sorte que cette connaissance, elle serve et elle soit vraiment impactante, donc que les acteurs opérationnels puissent s'en emparer pour finalement avoir des résultats sur le terrain.
À ce sujet, précisément, je propose un nouvel éclairage de quelqu'un, d'un membre de votre collectif d'hydrogéologues d'Afrique de l'Ouest, recueilli à nouveau par Clémentine Métainier. C'est Fabrice Lawson, ou Lawson
Lawson, oui.
Lawson, Fabrice Lawson, qui est chercheur au laboratoire d'hydrologie appliquée à l'Institut national de l'eau à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. On l'écoute.
Nous connaissons un certain nombre de difficultés globalement rencontrées par les chercheurs, les opérationnels pour donner de l'eau aux gens impactés d'eau souterraine. Et l'étape d'après, c'est de traduire finalement ces résultats que nous avons obtenus dans un langage digeste à la fois pour les opérationnels et aussi pour les décideurs. Alors ce n'est pas du tout facile parce que le chercheur que nous sommes, généralement, on se limite à des publications scientifiques et ces publications ne sont pas forcément accessibles au grand public, en tout cas à ceux que nous voulons toucher pour faire un plus sur l'accès à l'eau de façon concrète et pas forcément dans la langue qu'il faut parce que généralement les publications sont en anglais. Donc nous faisons un réel travail sur la forme qu'il faut donner aux résultats pour qu'ils soient ensuite appliqués. Et ce n'est pas toujours aisé. Il y a aussi la question du levier sur lequel il faut jouer pour que le décideur puisse trouver que, ah tiens, ça c'est vraiment une question qui me concerne, que l'opérationnel puisse trouver que bah, financièrement, économiquement, c'est rentable pour mon business. Donc voilà, c'est sur ces points-là que nous jouons pour faire en sorte que les résultats scientifiques que nous avons obtenus puissent passer dans le monde du développement et qu'on ait des résultats in fine au niveau de la population.
Pas simple, hein. Il faut vraiment jouer sur tous les tableaux, Jean-Michel Vouillamot.
Oui, et c'est vraiment un défi majeur à relever pour nous, hein, parce que traditionnellement, l'application des résultats de la recherche dépassait un peu le cadre de la recherche proprement dite. Je pense que ça appartient à l'ancien monde, en tout cas
aujourd'hui,
pour les chercheurs de l'IRD. Aujourd'hui, on essaye de répondre à une demande sociétale et donc il faut que ce qu'on produise finalement puisse être utilisé par cette société pour résoudre ces difficultés. En tout cas, on se donne ce mandat-là, mais effectivement, c'est difficile et je n'ai pas la prétention d'y arriver. En tout cas, dans le cadre du collectif, on a développé une stratégie très claire pour essayer de travailler cet objectif-là.
Votre collectif de chercheurs sur ces eaux souterraines en Afrique de l'Ouest.
Voilà, avec nos jeunes collègues africains. Mm-hmm. Et cette stratégie, c'est laquelle ? C'est de dire, sortons de nos programmes de recherche stricto sensu et associons à nos activités de recherche l'ensemble des acteurs impliqués. Bailleurs de fonds, décideurs, donc ministères, bureaux d'études, entreprises. Associons-les à la mise en œuvre et à l'écriture du projet. Et chacun va venir contribuer de façon différente en fonction de ses intérêts propres à la mise en œuvre du projet. Ça va créer évidemment un peu des tensions, des discussions, mais c'est ce qui va faire que, en tout cas on l'espère, qu'au sortir des activités, bah, chacun s'empare des résultats parce qu'il aura été générateur lui-même de ces résultats et il aura généré des résultats qui recoupent finalement ces champs d'intérêt.
Là vous allez loin, enfin, vous sortez des limites habituelles de la recherche, vous faites parfois même un peu lanceur d'alerte. Et puis, je veux dire, c'est vraiment une recherche sans frontières à tous les niveaux. Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on parle de cette région de socle qui, du coup, nous donne une autre géographie, hein, de cette Afrique de l'Ouest, de cette région subsaharienne. Et des chercheurs tous sans frontières. Hein, vous êtes tous, vous êtes basés à Grenoble, d'autres sont basés à Montpellier. Et puis, évidemment, au Burkina, au Mali et dans de nombreux, au Niger, dans de nombreux pays d'Afrique. Donc, c'est vraiment sans frontières à tous les niveaux. Et il n'y a que comme ça que ça peut marcher.
Oui, d'abord parce que collectivement, on est plus intelligent. Parce que, encore une fois, les problématiques de nos collègues africains en zone de socle sont communes. Ce qui réunit tous ces jeunes chercheurs-là, au-delà de la sympathie qu'on peut avoir les uns pour les autres, c'est quelque chose qui est important, hein, c'est évidemment la volonté de travailler pour le mieux vivre des populations et donc pour la résolution de ces difficultés d'approvisionnement.
Et est-ce que, alors actuellement, nous sommes en pleine COP Philippe à Sharm el-Cheikh en Égypte. L'UNESCO a déclaré cette année 2022 l'année des eaux souterraines. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous sert? Ou est-ce que c'est vraiment sur le terrain et à petits pas et avec tous les acteurs que finalement ça avance?
Alors, si on poursuit la discussion engagée sur le fait qu'on essaye de générer de la recherche impactante, je pense qu'il y a différentes façons, finalement, de faire une recherche utile aux questions sociétales. Une des façons, c'est de contribuer à ce type de conférence en apportant une recherche dont les politiques ou les décideurs peuvent s'emparer. Une autre façon de procéder, et c'est celle que nous, on a choisie, c'est d'être un peu plus proche du terrain et d'agir en lien avec des acteurs qui sont plutôt des acteurs locaux. Parce qu'on pense que les deux approches sont tout à fait complémentaires et qu'il ne faut surtout pas les mettre en concurrence.
Autour de cette question de l'eau, de l'accès universel et équitable à l'eau au Sahel, on continue de nous interroger sur la meilleure manière d'y arriver. Ça, c'est indispensable. Et aux populations du Sahel, et le Sahel est chanté tout de suite sur RFI par une fabuleuse voix malienne, Inaba Koulibaly, avec le regretté Ali Farka Touré sur RFI. Sahel, on y est dans la voix de Inaba Koulibaly sur RFI. Autour de la question des eaux souterraines pour pouvoir garantir enfin l'accès universel à l'eau potable dans la région sahélienne, en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en compagnie de l'hydrogéologue Jean-Michel Vouyamo et de ses consoeurs et confrères ouest-africains, tous hydrogéologues, donc engagés pour une meilleure connaissance de ce cycle de ces eaux souterraines dans ces zones de socle. Il y a de quoi nous donner de l'espoir, comme va nous l'expliquer tout de suite Valérie Cochoni au Bénin, hydrogéologue, hydrochimiste au sein de l'Institut National de l'Eau à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. C'était une de vos étudiantes, c'est toujours, hein, c'est une de vos collègues. Maintenant, elle est interrogée, Valérie Cochoni, par notre reporter Clémentine Métainier sur cette ressource renouvelable. Mais jusqu'où et comment?
La ressource en eau souterraine, sa connaissance au Bénin, il reste encore des efforts à faire par rapport à ça parce que pour connaître les ressources en eau souterraine, on a besoin de connaître le stock qui est disponible et donc également le renouvellement de ce stock-là. Et puisque quand cette ressource elle est disponible, on la prend, elle peut s'épuiser si elle n'est pas renouvelée. D'où l'importance de se focaliser sur la recherche qui constitue un paramètre essentiel qui assure la durabilité de la ressource en eau souterraine.
Et justement, comment elle se renouvelle? Par la pluie?
Au Bénin, la recherche se renouvelle essentiellement par les eaux de pluie. Et en fonction du contexte, ce n'est pas le même volume d'eau qui renouvelle l'aquifère. Quand on passe du sédimentaire vers le socle, c'est des volumes faibles en zone de socle comparativement en zone sédimentaire où on a des volumes un peu plus importants.
Et avec les variations du climat, le changement climatique, on a des pluies qui seront moindres, mais pas forcément moins d'eau, c'est-à-dire sur des épisodes beaucoup plus, on va dire, violents ou beaucoup plus massifs. Ça, c'est bon pour les nappes souterraines ou enfin, les aquifères, ou c'est pas bon, justement? Il faut de la pluie plutôt mieux répartie, ou bien ces épisodes, c'est ça que vous constatez aussi, des épisodes plus forts, mais moins fréquents?
Tout à fait. La prévision climatique actuelle montre des épisodes de pluie qui seront forts en intensité, mais c'est plutôt positif par rapport à la ressource en eau souterraine parce qu'elle va favoriser beaucoup plus la recharge des nappes.
Optimiste, c'est génial ce que nous dit Valérie Cochoni, qui est depuis le Bénin, Jean-Michel Vouillamo. L'intensité du changement climatique, l'intensité des pluies, ce qui provoque des inondations parfois monstrueuses, c'est plutôt un bon signe et bénéfique pour les eaux souterraines.
Oui, alors c'est vrai que j'ai du mal à le dire aussi simplement parce que ça crée d'autres dégâts, hein,
bien
que
sûr,
vous venez d'évoquer.
Bien sûr, et les inondations créent d'énormes dégâts,
mais pour les eaux souterraines, c'est plutôt favorable. Et on a réalisé il y a quelques années avec des collègues une étude à l'échelle du continent africain tout entier. Et on s'est rendu compte qu'un grand nombre de zones qui ont des climats du type sahélien, dans ces climats-là, les eaux souterraines ne se renouvellent qu'au gré d'événements extrêmes qui peuvent arriver quelques fois par an ou quelques fois seulement par décennie. Donc on peut imaginer, je prends un exemple par exemple, que j'ai en tête là, qui est en Tanzanie, où finalement on a un renouvellement des souterraines qui se fait en moyenne une fois tous les 10 ans, mais qui est suffisant parce qu'il est très important, il se fait au niveau d'événements qui sont des événements d'intensité exceptionnelle, et il est suffisant finalement pour renouveler l'eau souterraine qui va pouvoir être ensuite utilisée pendant une dizaine d'années.
Vous êtes donc, comment dire, sur le long terme, et si on vous écoute, si on vous entend, et si vraiment tous les acteurs, que ce soit les bailleurs de fonds, les opérateurs, les décideurs, vous suivent, Jean-Michel Vimos, vous êtes plutôt optimiste finalement. Les hydrogéologues comme vous nous disent, dans ces zones de socle, il y a assez d'eau pour assurer l'accès universel à tous et à toutes, notamment dans les régions sahéliennes, sauf qu'il faut continuer les recherches, comprendre encore mieux ce cycle d'eau et suivre ce que vous proposez, et c'est-à-dire changer complètement de manière de faire aussi.
Oui, absolument, on est plutôt optimiste, de façon globale. Il peut avoir localement des difficultés parce qu'encore une fois, il y a des hétérogénéités régionales.
Bien sûr.
Mais globalement, on est optimiste. Sauf que quand on dit il suffit de changer la façon de faire, c'est une vraie difficulté auquel on s'attache, mais on n'a pas encore vraiment réussi à le faire.
Votre espoir, en tout cas votre réponse, sera-t-il possible d'assurer l'accès universel à l'eau potable pour tous et tous, équitable en Afrique de l'Ouest? La réponse, elle est oui, si on accepte de changer de manière de faire.
Absolument. Absolument.
Merci infiniment d'avoir partagé avec nous, Jean-Michel Vouillamo, les formidables enjeux, défis de ces eaux souterraines dans ces zones de socle en Afrique de l'Ouest. Bon retour à Grenoble, mes amitiés et mon respect aussi à tous vos collègues, consoeurs et confrères hydrogéologues en Afrique de l'Ouest avec qui vous restez en lien et qui ont participé à cette émission grâce à notre reporter Clémentine Métainier. Je vous renvoie aussi, chers amis auditrices et auditeurs, sur le très beau documentaire d'Aïssa Maïga, Marche sur l'eau. Merci Jean-Michel Vuillamo, et vous revenez quand vous voulez nous dire comment ça marche sur place.
Super, merci beaucoup.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain autour de la question à quoi jouent nos gènes? Tiens donc, et pourquoi migrent-ils tant? Avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci pour votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.